Slate Podcast.
Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le podcast de Slate.fr qui revient chaque semaine sur l'actualité politique française et internationale avec Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate.fr. Bonjour Jean-Marie.
Bonjour Christophe.
Avec nous Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Bonjour Alain.
Bonjour Christophe.
Cette semaine, c'est un raz-de-marée conservateur qui a emporté la Chambre des communes britanniques.
It is now 10 o'clock and we can reveal the full details of the joint broadcaster's exit poll, which is predicting a large conservative majority.
The BBC have just announced the exit poll for the general election and it predicts a whopping 86-seat majority for Boris Johnson's party.
This election of 2019 formally has been won by the Conservatives. And that will be the biggest Conservative majority since Margaret Thatcher's third victory back in 1987.
Boris Johnson signe une victoire historique ce jeudi 12 décembre avec 364 sièges, soit 38 sièges au-delà de la majorité absolue. Cette avance, on ne l'avait jamais vue depuis 1987, année de la troisième victoire d'affilée des Tories à l'époque de Margaret Thatcher. Jean-Marie, Alain, est-ce que vous vous attendiez à une telle déferlante conservatrice ?
Alors, certainement pas. Certainement pas, parce que d'abord, on a peu confiance dans les sondages, les instituts de sondage britanniques qui se sont souvent trompés, et qui là, qui prédisaient une victoire de Boris Johnson, certes, mais sur des marges qui ne sont pas celles qui se sont produites. Et ensuite, on pensait que le match, en effet, pouvait être plus serré, même si depuis le début de la campagne jusqu'à la veille du scrutin, Johnson faisait la course en tête. Mais entre gagner et gagner avec cet écart, et comme vous l'avez indiqué tout à l'heure avec ce score historique, ça c'était loin de pouvoir le prévoir.
Alain, comme Jean-Marie, vous avez été surpris, vous, par le score des conservateurs ?
Oui, j'étais surpris, oui. Je pense que si on se rapporte au résultat des élections législatives de mai 2017, je ne pense pas que les travaillistes descendraient aussi bas, ni que les conservateurs feraient ce score de donc une majorité de quasiment de 40 sièges sur les 326 sièges qu'il faut avoir là-bas pour avoir la majorité. J'ai été surpris, je pense que c'est assez simple, c'est ras-le-bol de cette situation. Il faut en sortir. Il y en a un qui propose un mode de sortie assez simple. Faisons le Brexit, ce qui n'est pas encore fait et ce qui va poser encore beaucoup de difficultés. Mais voilà, je crois que c'est un vote pour... Mais on pourrait même pas dire tellement pour le Brexit, mais c'est un vote pour sortir du chaos actuel et de la paralysie politique.
Alors justement, c'était la question que je voulais vous poser, Jean-Marie. Selon vous, les Britanniques, ils ont voté pour le Brexit, pour un parti, donc le Parti conservateur, ou pour un chef de gouvernement, en l'occurrence Boris Johnson?
Il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer le succès, ce succès historique. D'abord le Brexit, comme vient de le rappeler Alain, « Get Brexit done », c'était quand même le slogan de Boris Johnson pour sortir en effet du chaos précédent. Donc il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus et le mandat est clair, il faut sortir. Donc, première raison. La deuxième raison, c'est la simplicité du message, qui était en effet ramené au Brexit et qui était de manière à ce que à la période confuse qui a précédé, on sorte avec une clarification et une simplification. La troisième raison, c'est aussi que Boris Johnson avait infléchi le discours conservateur dans un sens plus protecteur. Notamment, toute la campagne, la fin de la campagne électorale a été centrée sur les questions du système de santé, du service de santé, de son état de délabrement et de la nécessité de faire un effort dans ces domaines. Et à l'inverse de Theresa May, qui, elle, avait aggravé, en quelque sorte, les inégalités et les problèmes sociaux, objectivement, Boris Johnson, là, a pris un petit peu le contre-pied, ce que l'on attendait assez peu de la part des conservateurs, mais qui était nouveau et qui a pesé dans le scrutin. La quatrième, et à mon avis la principale raison du succès de Boris Johnson, c'est Jeremy Corbyn. Ça a été le principal artisan de la victoire de Boris Johnson.
Il y a deux acteurs du Brexit. Il y a Boris Johnson, qui n'est pas vraiment convaincu, qui a choisi ça pour gagner, conquérir le pouvoir, mais qui déclarait au Monde, en 2003 encore, ça serait stupide, il faudrait être fou pour sortir de l'Union européenne, et qui, la veille du référendum de mai 2016, avait préparé deux articles. Un, si jamais le Brexit l'emportait, et un autre, si jamais le « on son reste l'emporte. Donc lui, par pur cynisme, il s'est saisi du Brexit pour aller au pouvoir. Il sait conquérir le pouvoir. On va voir s'il sait l'exercer. C'est assez difficile. Le deuxième acteur, c'est Jeremy Corbyn. Je pense que n'importe quel travailliste autre que Jeremy Corbyn aurait battu Boris Johnson.
Alors juste un point sur le Parti travailliste et Jeremy Corbyn. Le Parti travailliste a perdu 59 sièges.
Son plus mauvais score depuis 1951.
Son plus mauvais score, et Jeremy Corbyn a fait campagne très à gauche. Il n'a jamais été vraiment très clair au sujet du Brexit. Visiblement, c'était une erreur.
Jeremy Corbyn, c'est le représentant du vieux Labour, du vieux Parti travailliste. Et je vous rappelle que le Parti travailliste qui avait été triomphant, c'était le New Labour, celui de Tony Blair, qui avait un positionnement beaucoup plus centre-gauche. Et donc la preuve vient d'être une nouvelle fois administrée qu'on peut pas prétendre gouverner la Grande-Bretagne en étant à la gauche de la gauche, car Jeremy Corbyn a toujours été à la gauche de la gauche. Et je pense qu'un des éléments qui a fait peur, en dehors du fait qu'il n'a jamais renié ses options d'ultra-gauche, qui sont donc son repoussoir pour une majorité de Britanniques, il y a aussi le fait que Jeremy Corbyn proposait, et alors ça va nous parler à nous Français, un choc fiscal, et un sacré choc fiscal, parce que là il était au-delà de 80 milliards de livres, donc ça veut dire, je sais pas, quelque chose comme 90 milliards d'euros. Le choc fiscal de François Hollande, c'était 40 milliards d'euros, pour vous donner une petite idée. Et donc ça a été aussi, ça a fait peur, mais pas seulement fait peur aux chefs d'entreprise, aux milieux patronaux habituels, ça a fait peur aussi aux classes moyennes. Et donc, mais c'est conforme à son programme d'ultra-gauche. Donc voilà, on sait très bien que pour gagner, il faut arriver à rassembler au-delà de la gauche. Pour rassembler au-delà de la gauche, il faut être sur un positionnement plus centriste, entre guillemets, au sens britannique du terme, que ultra, comme l'a été Jeremy Corbyn, plus les polémiques sur l'antisémitisme avec lequel il a quand même fait un bout de chemin dans le passé et qu'il n'a pas vraiment su gérer dans la période plus récente. Et puis, Alain l'a souligné tout à l'heure, son extrême ambiguïté sur le Brexit. On sait qu'il est eurosceptique, alors il n'assumait ni le maintien, ni la sortie, ni donc c'était une espèce de flou qui tranchait avec le positionnement très clair de Boris Johnson.
Alain, il y a quelqu'un qui peut reprendre en main le Parti travailliste, qui peut le réorienter?
En tout cas, c'est la quatrième élection que les travaillistes perdent d'affilée, et on a l'impression que plus ils se déportaient à gauche, plus ils perdent de sièges. Alors pourquoi on votait? On sait qu'on votait. Donc Johnson avait hérité du mandat de Theresa May, qui a démissionné, donc il fallait à nouveau, lui, qui légitime son poste de Premier ministre, et donc, d'accord avec la Chambre des communes, on est allé à nouveau à des élections anticipées. Mais même dans cette situation où les conservateurs partaient dans une situation de relative faiblesse, si vous voulez, je pense que n'importe quel travailliste aurait battu Boris Johnson. Le problème est, il y a la radicalité du programme. On peut pas parler aux Britanniques, à l'électorat britannique. C'est quand même une grande classe moyenne, comme si on était en permanence tous les jours dans un film de Ken Loach, comme si on était dans une situation de misérabilisme extrême. On n'est pas là-dedans. Et ensuite, une partie des travaillistes, très exactement à peu près 40% de l'électorat travailliste, notamment dans le nord-est et nord-ouest du pays, ont voté pour le Brexit. Et il lui a manqué ces électeurs-là. Et enfin, je crois qu'on ne peut pas être Premier ministre d'un pays qui est sollicité de prendre une décision quasi existentielle, en tout cas la principale décision politique depuis au moins 40 ans, depuis 1973, date de l'adhésion du Royaume-Uni à l'Union européenne, et ne pas avoir d'opinion sur cette question. On ne peut pas gouverner ni être élu Premier ministre dans ces conditions. Alors il a dit qu'il allait s'en aller, pas tout de suite, mais que ce n'est pas lui qui conduirait les travaillistes aux prochaines élections législatives. Eh bien, on verra qui les conduit, mais moi je suis certain qu'il y aura un recentrage du programme travailliste.
Juste pour compléter ce que disait Alain sur le fait qu'un certain nombre de circonscriptions traditionnellement inscrites à gauche ont voté cette fois pour Boris Johnson, parce qu'il y avait l'hypothèque du Brexit. Il faut se rappeler ce qu'a été la tactique de Farage, qui avait donné naissance à l'UKIP, puis Brexit Party.
Donc un parti très à droite, anti-européen,
absolument,
et pour la sortie de la Grande-Bretagne de l'Europe.
Ils ne se sont présentés que dans les circonscriptions où ils pouvaient affaiblir le Parti travailliste. Et ils ne se sont pas présentés dans les circonscriptions que détenaient les conservateurs ou que les conservateurs pouvaient viser. Et donc ce jeu tactique a affaibli uniquement le Parti travailliste et l'électorat du Parti travailliste, et a évidemment profité aux conservateurs. Ça a été un des éléments clés de l'ampleur du scrutin, en tout cas de l'ampleur de la défaite des travaillistes.
Boris Johnson a désormais les mains libres pour entamer les processus du Brexit. La date butoir est fixée au 31 janvier 2020. Ça ne veut pas dire que les Britanniques vont quitter l'Europe à ce moment-là.
Non, il y aura formellement une sortie, mais les difficultés commencent maintenant. C'est-à-dire que s'ouvre maintenant une période qui dite période transitoire, qui est prévue pour en gros une année, et qui doit permettre de définir la relation entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Donc la palette de cette relation est très vaste, compris en termes d'union douanière. Donc on verra bien, mais la difficulté, elle est là, et elle va être longue, et probablement semée d'embûches. Donc on va là voir, le maçon au pied du mur.
Pourtant, Alain, il me semble qu'il y a quelques semaines, on n'était pas très loin d'un accord entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne. Est-ce qu'il y a encore des points clés à négocier ?
Il y a deux types d'accords. Un a déjà été négocié. Et l'autre, on n'a pas encore commencé à le négocier. Le premier type d'accord sur lequel Boris Johnson s'est entendu avec l'Union européenne, cet accord-là doit être soumis maintenant à la Chambre des communes. C'est l'accord qu'on appelle l'accord de divorce. On se sépare. Alors, si on se sépare, vous nous devez combien ? Tout le monde est d'accord, entre 39, je crois, et 40 milliards d'euros. Quelle va être la situation des ressortissants européens au Royaume-Uni et quelle va être la situation des Britanniques dans le reste de l'Union européenne ? Là aussi, on s'est mis d'accord sur les questions de sécurité sociale, etc., etc. Et enfin, on s'est mis d'accord pour qu'il n'y ait pas de frontière entre l'Irlande du Nord, qui appartient au Royaume-Uni, et la République d'Irlande, pays indépendant depuis 1920. Donc ça, c'est fait. Il reste simplement à ce que cet accord, qui est le même que celui que Theresa May avait réussi à négocier avec l'Union européenne, c'est exactement le même. Cet accord, bizarrement, il a été retoqué 3 fois par la Chambre des communes, notamment torpillé par Boris Johnson, qui ainsi s'est débarrassé de Madame May. Mais il a signé exactement le même accord, ou à peu près, avec l'Union européenne, donc l'accord de divorce, et il a dit « avant Noël, j'aurai une majorité à la Chambre des communes pour que cet accord soit définitivement entériné. » Et ça va se passer comme ça. Il aura une majorité, cette même Chambre des communes qui avait retoqué 3 fois le même accord, cette fois-ci, elle va l'accepter. C'est toute la force et l'habileté politique de Boris Johnson. Ensuite, il entre dans la négociation du deuxième accord, dont on n'a pas encore parlé. Rien n'a été négocié encore. C'est pas comme les 18 mois de négociation qu'il a fallu pour arriver à l'accord de divorce. Le deuxième accord, comme disait Jean-Marie, c'est l'accord qui va définir les relations, notamment commerciales, mais pas seulement commerciales, aussi en matière de sécurité, de lutte contre le terrorisme, etc., entre la Grande-Bretagne, en tant que pays tiers, et l'Union européenne. Cet accord, en principe, il doit être négocié pendant la période de transition. C'est-à-dire que rien ne change dans l'année qui vient. Rien ne change. Mais au bout de cette année, Boris Johnson a dit « quoi qu'il arrive, je m'en vais ». Qui est accord ou pas, je m'en vais. Moi, peut-être qu'on en parlera plus tard, je pense qu'il y aura un accord. Tout le monde dit que c'est pas possible de négocier cet accord en un an. Sauf si Boris Johnson applique la même technique de négociation que celle qu'il a appliquée sur l'accord de divorce. C'est-à-dire, je dis oui à tout ce que me demande l'Union européenne. Et c'est ainsi qu'on arriverait, au bout d'un an, dans un an, en décembre 2020, à la formule la plus douce imaginable du Brexit, qu'on appelle le BRINO, le Brexit in name only. C'est-à-dire, c'est la formule Canada Dry du Brexit. On garde le maximum de relations, on colle au plus près à l'Union européenne, sur le plan des normes, sur le plan des règlements, etc., pour maintenir la moitié de notre commerce extérieur avec l'Union européenne. Moi, je pense que c'est exactement ce qui va passer. Il n'y aura pas de Brexit, il y aura un BRINO.
Ce serait une trahison, donc, des électeurs britanniques.
Trahison totale. C'est un traître né. C'est un maître traître. C'est un homme qui possède admirablement cet art-là, Boris Johnson.
Il a prouvé, il a gagné. Mais ça renvoie à la question de fond du Brexit. C'est-à-dire que l'idée du Brexit a été nourrie par une nostalgie tous azimuts. Une nostalgie d'une Grande-Bretagne fière et solitaire. Comme si la Grande-Bretagne était à ce point dans la mondialisation qu'elle n'avait plus besoin de l'ancrage européen. Comme si la Grande-Bretagne avait vocation, pour sa place financière, la cité de Londres, à devenir un nouveau Singapour. c'est-à-dire une place de financière avec ce que cela comporte comme à côté, pour recueillir, j'allais dire, de l'argent qui normalement devrait se situer ailleurs. Ça, ça a été le ressort principal, et puis nostalgie d'une forme de grandeur, sur laquelle a appuyé fortement Donald Trump en disant aux Anglais et à Boris Johnson, ne vous inquiétez pas, on fera un accord aux petits oignons avec les États-Unis, une sorte d'accord commercial qui sortirait au fond l'Angleterre de son ancrage européen pour la satelliser autour des États-Unis. Et c'est ça, en fait, la grande question de la rupture. Mais qui repose sur une idée fausse de la part d'un certain nombre de Britanniques eux-mêmes, parce que la réalité du commerce et du positionnement de la Grande-Bretagne dans le commerce mondial, ça n'est pas une puissance mondiale, c'est une puissance européenne qui dépend exclusivement de ses transactions avec le reste de l'Europe. Et donc, c'est en cela que il peut y avoir mal donné dans l'esprit d'un certain nombre de gens qui disent « on retrouve notre indépendance ». Eh bien oui, mais concrètement, l'indépendance économique, non, l'interdépendance prévaudra. Et c'est là qu'on retrouve le schéma que vient de décrire Alain.
Alors, vous parlez d'indépendance, je vais justement en profiter pour rebondir. Lors de ces élections, il y a un parti qui a fait une performance aussi remarquable, c'est le SNP, le Scottish National Party, le parti national écossais indépendantiste, qui a remporté 48 des 59 sièges réservés à l'Écosse à la Chambre des communes. Du coup, Nicola Sturgeon, la première ministre écossaise, réclame un nouveau référendum sur l'indépendance de son pays, avec l'idée, elle, de rester dans l'Union européenne et d'échapper au Brexit. Est-ce qu'un référendum sur l'indépendance de l'Écosse est imaginable ?
C'est tout à fait imaginable parce que ça va être demandé, vraisemblablement. Simplement, si on se fie aux études d'opinion, autant il y a eu un vote massif en faveur du parti écossais, autant le partage sur la question même de l'indépendance reste assez stable autour de 55-45, 55 contre l'indépendance, 45% pour l'indépendance. Donc je pense que cette donnée-là ne va pas beaucoup bouger. Le nationalisme écossais est très intéressant à observer, comme l'avait détaillé un article de Slate récemment. C'est un nationalisme ouvert. Ce n'est pas un nationalisme de repli. Tellement ouvert qu'il veut absolument rester dans l'Union européenne. Et donc la partie qui va se jouer avec Londres sera de savoir s'il peut y avoir un régime particulier pour l'Écosse, comme il y en aura un pour l'Irlande du Nord, qui fasse que l'Écosse commerce davantage, soit davantage intégrée au processus européen, comme, encore une fois, en s'alignant en gros sur la situation de l'Irlande du Nord. C'est ça qui va se jouer, mais sur l'indépendance, je ne pense pas que ça puisse aller au-delà. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est en cela que l'Écosse nous est sympathique. Ils sont européens et veulent le rester.
Ces résultats sans appel, qu'est-ce qu'ils disent de l'état des populismes en Europe ?
Cette question est une manière de prolonger la conversation qu'on avait. Pourquoi est-ce qu'il y a eu ces trois années de difficultés énormes à dégager une majorité ou à dégager un homme ou une femme politique capable de mettre en application le résultat du référendum de mai 2016 pour ou contre l'Union européenne, 52% contre, 48% pour. Pourquoi ? Parce qu'on est au cœur de la question des populismes. Aucune des pathologies qui ont justifié, qui ont motivé le vote Brexit, aucune de ces pathologies n'est solvable dans le Brexit. Parce qu'aucune de ces pathologies n'est liée à l'appartenance du Royaume-Uni à l'Union européenne. Sous-productivité, sous-investissement public, notamment dans le service de santé, hausse des inégalités. Aucune de ces trois pathologies, qui ont notamment été à l'origine du vote Brexit, de même qu'elles sont à l'origine d'un vote protestataire dans le reste de l'Europe, aucune de ces pathologies n'est liée ou n'a pour cause l'appartenance à l'Union européenne. Au contraire. Enfin, autre élément qui a été souvent mis en avant, la peur des grands flux migratoires et des migrations. Le Royaume-Uni n'était pas concerné. Le Royaume-Uni n'est pas dans les accords de Schengen, donc l'immigration extra-européenne, elle a le contrôle total de ses frontières là-dessus. Mais le slogan, qui était un slogan formidable, « Reprenons le contrôle », a marché. Il a très bien fonctionné. Et quant à l'immigration intra-européenne, les Britanniques sont les seuls coupables. Ils avaient 7 ans de période de transition, lorsque nous avons ouvert l'Union européenne à l'Europe de l'Est, pour accepter d'ouvrir leur marché du travail aux Polonais, aux Tchèques, enfin à l'époque c'était encore, je crois, les Tchécoslovaques, aux Hongrois, etc. Mais non, a dit Tony Blair, qu'ils viennent tout de suite, tous les métiers leur sont
ouvert. C'est un choix de la Grande-Bretagne. Enfin, la question de la souveraineté. Mais pas un seul moment, ni pendant la campagne de 2016, ni lors de cette question des élections législatives, vous n'avez entendu cette question de la souveraineté du Royaume-Uni sur la table. Pourquoi ? Parce que la Chambre des communes n'a jamais perdu sa souveraineté. Toutes les directives repassent par la Chambre des communes, comme dans le reste de l'Union européenne. Elle n'a jamais eu le sentiment de perdre sa souveraineté, la Grande-Bretagne, lorsqu'elle a voulu aller faire la guerre en Irak. Question clé. Sur la souveraineté, est-ce que je vais envoyer des jeunes nationaux faire la guerre ? Eh bien, elle a pris cette décision en pleine souveraineté. Ce n'était pas du ressort de l'Union européenne. D'autres pays de l'Union européenne ont fait un choix différent. Lorsqu'elle n'a pas voulu aller faire la guerre en Syrie, alors que la France était prête à aller bombarder la Syrie, la Chambre des communes a dit non à David Cameron. Nous n'irons pas bombarder la Syrie. En revanche, elle a voulu faire l'opération libyenne avec les Français. Tout ça n'a strictement rien à voir avec son appartenance ou sa non-appartenance à l'Union européenne. Et encore une fois, c'est très intéressant parce que le populisme fonctionne comme ça. Il a besoin d'une cible simple, immigration, Union européenne, mondialisation, et qui va concentrer tout le malaise de l'époque. Mais le malaise de cette partie de l'électorat qui vote protestataire est beaucoup plus complexe à identifier, mais plus encore. Il relève fondamentalement des politiques nationales et non pas des politiques qui sont décidées à Bruxelles.
On a vu la défaite de l'opposition à Boris Johnson. Est-ce que dans la mobilisation de cette opposition, il y a une leçon à tirer pour le Parti démocrate américain, pour le candidat qui devra s'opposer à Donald Trump en novembre ?
La leçon qui est à tirer, c'est celle de la radicalité. Plus le candidat démocrate s'inscrira dans les pas d'une gauche radicale, d'une gauche entre guillemets excessive aux yeux des Américains, et plus Donald Trump aura une chance d'être réélu. Et c'est toute la question. Si la primaire démocrate donne la prime à un Jeremy Corbyn américain, qui peut être soit Bernie Sanders, soit
Elizabeth Warren.
Elizabeth Warren, bien que ce soit un peu plus nuançable pour Elizabeth Warren, mais néanmoins, à ce moment-là, Donald Trump retrouvera toutes ses chances. Donc le positionnement du futur candidat démocrate est essentiel.
Pour ce qui est de la politique américaine, je vous encourage à écouter notre podcast Trump 2020, disponible tous les mercredis sur Slate. Merci Jean-Marie, merci Alain pour
merci
votre
Christophe.
Participation.
Merci Christophe.
À la semaine prochaine. Vous venez d'écouter Le Monde Devant Soi, un podcast Slate.fr à retrouver tous les samedis matins sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous y abonner et à nous mettre 5 étoiles.